Yeah. Le Maharal, au début du Or Hadash, de son commentaire sur Purim, il dit que le décret d'Aman est à entendre comme une xerat mita la olam. En fait, c'est un décret de mort concernant le monde entier. Parce que pour le Maharal explique qu'Israël aime Ikara Olam. Israël est l'essentiel du monde. Alors, de la manière suivante, la Gemara dans Khulin, elle demande d'où est-ce qu'on voit dans la Torah, étant donné que dans la Torah, il y a un remes de chaque chose, il y a une allusion à chaque chose. Où est-ce qu'on voit dans la Torah une allusion à Aman? C'est Aman mina Torah minaïn, vous savez bien la réponse. C'est le pasouk dit Amina etz. Hachem a demandé à Adam Arishon, il a demandé, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais dit de ne pas manger? Alors, ça s'écrit Amina etz et Amin, ça s'écrit Aman. Hey, memnoun. Alors le Maharal dit, on voit bien que d'avoir mangé du fruit qu'Hachem avait interdit de manger, ça a amené la mort dans le monde. Donc si vous voulez, le Etsadat, il était prêt pour amener la mort, le cas échéant, dans le monde. Et de la même manière, Haman est prêt pour amener la mort dans le monde, c'est-à-dire pour tuer, pour détruire, depuis le jour où il a été créé. Donc le fait de manger qui a amené la mort, on sait que c'est lié à Onachash, c'est lié au serpent, Onachash HaKadmoni, et Aman, il vient de Amalek, et Amalek, il est considéré justement comme le serpent tordu, en fait. Il est le Nahash HaKalaton, et donc, on a là, ici, tout le processus qui amène la mort dans le monde.
Et ça continue.
Un instant. Donc, dans la Torah, il y a ce remez, cette allusion. Donc, c'est de cet arbre-là que vient la mort. Et justement, Aman voulait détruire Israël, qui est le Ikar HaOlam. Et donc, cette volonté de destruction d'Israël, c'est en fait équivalent à une volonté de destruction du monde entier. Et c'est pour ça qu'il est fait allusion à Aman dans ce verset qui parle de la destruction du monde entier. de, c'est-à-dire de la mort, qui s'applique au monde entier. Donc on voit ici que ce décret de Daman, la Shmid, la Rog, la Bet, Kolayudi, Minar, Vatzaken, Tafenashim, Biomechad, projet d'Aman de solution finale qui devait avoir lieu en un seul jour, c'est pas que il a décrété pour le Maharal, c'est pas un décret qui concerne Israël en tant que tel. C'est pas une nouvelle chose. C'est d'une certaine manière un approfondissement du fait que les hommes sont mortels, en fait, donc, qu'il y a la mort dans le monde. Israël, c'est Ikar HaOlam, l'essentiel du monde pour le Maharal. Donc c'est la force de la Gzera d'Aman, elle vient de cette première transgression, elle vient de ce Etzadat. C'est Etzadat Tovera, ce Etzadat Tovera, c'est lui qui a donc amené la mort de l'espèce humaine, pour l'espèce humaine. Et c'est dans le Passouk, c'est-à-dire directement dans la terminologie qui est utilisée pour décrire cette Gzera, on dit Ta Venashim, etc., Beyom Echad. En un seul jour, Beyom Echad. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Beyom Echad, ça veut dire ici qu'on va arracher la racine en quelque sorte. Pour arracher tout le monde, il faut arracher la racine. Et c'est en cela que c'est Gzera sur le monde entier. C'est ça qu'on veut dire, qu'Aman Minatora Minayin, Aman Aminaitz. On peut essayer d'expliquer un peu plus. La Gemara dans Megillah, elle dit que sur le Passouk qui rapporte que quand Mordechai a appris le décret, il a mis des vêtements de deuil, etc. Et Esther a envoyé son serviteur auprès de Mordechai, Mazé ve Almazé, pour savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire et pourquoi il fait ça. C'est-à-dire, Mazé, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce Almazé. C'est-à-dire, ça l'explique, Shema avru Israël al chamisha chumshe Torah, dichtiv bahen, mise ou mise em ktuvim. Ce inyan de Mazé. Mazé, cette répétition, ce mazé, ça fait référence au fait que les louchot, les premières tables, enfin, les tables les louchot de la Torah, sont écrites de part en part. C'est mazé ou mazé em ktuvim. Sont écrites et lisibles des deux côtés. Donc il y a mazé ou mazé. Et le Midrash dit...
Et le deuxième n'était pas
comme ça. Si, si. Shema kafru baluchot. Peut-être que les Bnéels ont nié le contenu des luchot, justement de ces tables, qui sont écrites misé ou misé. Et par conséquent, l'accusation, elle est portée sur cette génération-là, mais elle vient du niveau du don des luchot. Le Mesher Chochma explique dans son commentaire sur la Torah, il explique que Esther nitkavna bitvarea l'chataim amsuyamim sheviu et akzera. Esther, elle pensait à des fautes bien précises qui éventuellement étaient les fautes pour lesquelles, enfin pour à cause desquelles, par transgression, c'est pour ces transgressions que la sanction vient sous forme de la gzera. Elle pensait chez Ishtarabu Latselem, on s'est prosterné au buste, chez Nagushenen ou Minsoudat chez la Rajverosh, qu'ils ont profité de du repas organisé par Achashverosh. Chazal disent que, utilise l'expression charut al aluchot, que vous savez, que les paroles de la Torah, enfin, les paroles des luchot sont écrites, sont gravées dans les luchot. Gravé, ça se dit charut. Et Chazal, vous connaissez la drasha, al tikre charut el acherut. Ne lis pas charut gravé, mais lis charut libéré, liberté. Chérout, c'est chérout mimalach hamavet. C'est-à-dire que les luchot, elles libéraient de l'emprise du malach hamavet. C'est-à-dire, elles nous libéraient de notre condition de mortel. Quand les Israël ont reçu la Torah, à ce moment-là, ils sont redevenus immortels comme l'était Adam Arishon avant la faute. Ils ont reperdu ça avec la faute du Vaudor. Mais ils sont redevenus immortels à ce moment-là. Charut, ils étaient libérés du malach hamavet. La Gemara dans Eruvin, elle dit, pourquoi est-ce que c'est écrit charut al aluchot? Comment est-ce qu'il faut entendre? C'est il malé lo nishtabro luchot arishonot lo nishtakra Torah miYisrael. Ils disent que si on n'avait pas brisé les luchot, les premières luchot, la Torah n'aurait jamais été oubliée dans le cas d'Israël. Rashi explique pourquoi, parce que charut, ça veut dire gravé, donc quelque chose de totalement ineffaçable, c'est définitif. Grâce à la charut, la Torah elle aurait été gravée dans le cas d'Israël, et donc impossible de l'oublier. Donc, le niveau du clan Israël, au moment du don des premières luchot, il est reflété par les luchot elles-mêmes. Comme on dit, Israël veoraita chadou, on dit que le clan Israël et la Torah, c'est une seule et même chose. C'est ça. C'est la forme, la structure des luchot. Cette gravure-là, elle reflète l'état dans lequel se trouvaient les Bnei Israël au moment où ils reçoivent les premières luchot. Il y a une halakha que si quelqu'un est auprès d'un mort, quand quelqu'un est en train de mourir, si quelqu'un est là au moment de Yetziat Neshama, s'il est là au moment où le Neshama quitte le corps, il a une obligation de déchirer ses vêtements, il doit faire kriya. Et la Gemara dit à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un Sefer Torah qui brûle. C'est-à-dire, Adam et Israël, un homme du clan Israël, il est un Sefer Torah en réalité. La Neshama, elle est le Ktav, elle est l'écriture en fait du Sefer Torah. Et le corps, c'est le Klaf, le corps c'est le parchemin, enfin la peau sur laquelle la Torah est écrite. Yetziat HaNeshama, quand la Neshama quitte le corps, ça veut dire qu'on a séparé le Ktav du Klaf. On a séparé l'écriture, les lettres, du support qui est le Klaf, c'est-à-dire le parchemin, enfin les peaux. En vérité, ça veut donc dire que le Malach HaMavet, le pouvoir de l'ange de la mort, donc et tout le sujet Amita, le sujet la mort, il vient de ce que il y a une écriture. Ça vient de ce qui est écrit en quelque sorte, exactement comme dans un Sefer Torah. Et de la même manière que dans un Sefer Torah, on peut imaginer la séparation des lettres du Klaf, cette même manière, on peut séparer la Neshama du corps. Mais comme le clan Israël, à ce moment-là, il était le prinat cherout du malach hamavet, il était libéré du malach hamavet, ça veut dire que la liaison entre la neshama et le corps était définitive. On ne pouvait plus séparer la neshama du corps. Exactement comme gravure, on ne peut pas, surtout une gravure de part en part, vous ne pouvez pas séparer les lettres du support. C'est ça l'idée que c'était misé ou misé, m'touvim, des deux côtés, c'est-à-dire de part en part. Parce que, on a souvent déjà parlé de cela, si on imagine qu'on a une tablette, sur cette tablette on grave. Alors, vous avez une tablette de 5 cm et vous allez graver sur 3 cm de profondeur. Maintenant, si vous coupez la tablette, vous tranchez la tablette, il vous reste 2 cm de tablette vierge. Et ça, c'est seulement si ce n'est pas de part en part. D'accord. Si c'est écrit de part en part, on ne peut pas du tout, il n'y a rien à... On ne peut rien récupérer, il n'y a plus de support. Il n'y a pas de support qui serait indépendant du ktav. Le ktav et le support, c'est une seule et même chose. Quand les Israël ont fait la faute du Vaudor, et que les louchotes ont été brisées, alors le niveau Kherout a disparu. Et là-bas, Chazal dit effectivement, sur le pasouk de Teilim, Ani amarti Elohim atem uvne Elion kulchem, j'avais dit vous êtes des dieux, et vous êtes des enfants du Très-Haut, mais chavaltem ma'asechem, achen ki adam tumutun. Vous avez, littéralement, ça veut dire, vous avez abîmé vos actions, donc maintenant vous êtes comme des hommes et vous êtes mortels. Mais en réalité, même après la brisure des louchot, il reste dans la réalité du Klal Israël, un aspect de ces louchot, un aspect de ce charout à la louchot, de cette libération du Malach HaMavet, il y a quelque chose qui ne meurt pas dans le Klal Israël. Il y a une halakha que Ena Tzibur Metim. Le Tzibur du Klal Israël ne meurt jamais. La halakha est, par exemple, si un yachid, si un individu doit apporter un korban khatat, il a fait une faute, il apporte un korban khatat. Alors il y a tout un sujet sur qu'est-ce qui se passe avec ce khatat si le propriétaire du khatat meurt avant qu'on ait approché le korban. Qu'est-ce qu'on va faire du korban? Il est mort, il n'a plus besoin de la kapara. Il est mort. Ça c'est une situation qui existe pour un individu. Si maintenant le clan Israël fait une faute, le Tzibour fait une faute, il doit aussi apporter un khatat. Et la Gemara elle dit, la situation que le Tzibour meurt, même si tous les gens qui ont fait la faute à ce moment-là, toute la génération a disparu, le Tzibour n'est pas réputé mort. Parce que le Tzibour c'est une entité, on peut presque dire presque abstraite, qui est habitée au fur et à mesure par les générations successives. Mais c'est toujours le même Tzibour. En d'autres termes, si vous voulez, Avraham Avinu, ce n'est pas mon ancêtre au sens... lui vivait dans un certain moment, une certaine vie, et moi je vis une autre vie. Nous sommes dans le même Tzibour. Le Tzibour qui a commencé avec Avraham Avinu, si vous voulez, il continue. Il était habité par Avraham Avinu, par Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, par les Shvatim, par Moshe Rabbeinu, la génération, et aujourd'hui par nous. Mais c'est le même Tzibour, Eina Tzibour Metim. Donc, à l'échelle du Tzibour, il nous reste cette immortalité. La trace de l'immortalité qu'on avait, qui était là, qui était l'immortalité d'Adam Arishon dans la création, qui a été retrouvée au moment du Matan Torah, et qu'on a reperdue, néanmoins elle est restée sous la forme Eina Tzibour Metim. Ça veut dire, le Malach HaMavet, il ne peut pas être cholette, il n'a pas de pouvoir sur la totalité d'Israël. sur Knesset Israël. Et quand, au temps d'Achashverosh, quand ce qui concernait les Bnei Israël se dit sous la forme Mazé, Réal, Mazé, et que la question c'était, mais peut-être que les Bnei Israël ont été coffers de. Ils ont nié les valeurs fondamentales qui sont inscrites dans les Luchot, qui, et la parenté, c'est comme on a dit, parce que les Luchot sont écrites Mizé ou Mizé. D'une certaine manière, il y avait donc un projet de destruction du charout résiduel. Le charout avait été détruit par le Hegel, à l'échelle des individus, mais il reste Enat Sibur Metim, et là le projet d'Aman, c'était un projet de destruction du Shoresh, d'aller Beyom Echad, c'est-à-dire on va tout enlever. C'est pas simplement on va tuer tous les gens de la génération. Bien sûr c'était ça, mais c'est aller plus profondément. Ce serait vraiment un vrai Judenrein, mais pas simplement qu'on aurait éliminé les Juifs de l'époque. Ça serait complètement purifié. On aurait extirpé les Juifs complètement de l'histoire juive, de l'histoire du monde. Et donc, ce serait la nouveauté ici, c'est un décret de mort sur Knesset Israël. Oui. Il n'y a plus de traces. Il n'y a plus rien.
De projet, en fait, d'un homme qui serait du même, enfin, serait de l'autre côté.
Oui, c'est ça. Personne. Tout le monde serait du même côté. Donc, c'est-à-dire, on va faire une séparation encore plus essentielle, si vous voulez, entre le ktav et le klaf, entre l'écriture et le support. C'est ça le biyom echad, la shmid, la rog, la bet, kol ayudim biyom echad. Donc ikar haolam. Ça c'est en vérité la profondeur de la gzera d'Aman, telle que le Maral l'entend. Lorsque les bnei ont, après divrei atzomot vezeakatam, après les jeûnes, les pleurs, les prières, etc., les Bnei Israël ont bénéficié du Nes et ils ont été sauvés et ils ont passé de Mimavet la Chaim, ils ont passé de l'état de mort à l'état de vivant dans ce principe de Vena Afochou, c'est-à-dire il y a eu un retournement. On apprend que ce retournement, lui, cette nouvelle vie du clan Israël, elle vient toujours de la même source. Le Cherout mi Malach HaMavet. Il a fallu se libérer du Malach HaMavet. On avait été, la Xéra, elle nous avait remis quasiment dans les mains du Malach HaMavet. Donc, ça y est, on est mort. Mais Nafochou, il faut en sortir. Donc ça, la source, c'est qu'est-ce qui nous libère du Malach HaMavet. Et donc, c'est de ce Cherout, en quelque sorte, qu'est venue la libération totale du Tzibour, de Knesset Israël, à ce moment-là. Et le Maral dans Tiferet Israël, il explique que le Moed de Purim, c'est d'une certaine manière c'est Beprinat Triatametim de l'Atid Lavo. D'une certaine manière, c'est du même ordre que la résurrection, que la Triatametim du monde à venir. Puisque après qu'on ait été dans l'état de mort, on revient à l'état de vie, mais comme au départ. Et il dit, Bepurim, Asher Higiou la Kherev. À Pourim, ils étaient sous le glaive, en quelque sorte. Le Chazar l'aim achiyut, ein safek shi'igi l'aim davar ze mi madrega eliona, shemimena achiyut, shelo beteva. Ça veut dire que la vie que les Bnei Israël ont récupérée à ce moment-là, retrouvée, c'est pas un processus naturel. Parce que le processus naturel de vie, celui-là, il a déjà été détruit par le décret. Et Akadosh Baruch Hu, dit le Maharal, ne peut pas, c'est Yefcha. C'est fini, cette vie-là, elle est terminée. La seule solution, c'est qu'Hachem leur ouvre une source différente, une source de vie différente. Ça, c'est ce que dit Maharal. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que toutes les fêtes, tous les moadim, l'étude de la voix, ils seront télim, sont supprimés. Tous les moadim sont supprimés, sauf Pourim. C'est-à-dire qu'au moment de la tria, au moment de la résurrection, Pourim va rester, parce qu'il est homogène à cette résurrection. C'est-à-dire, en fait, le Midrash dit sur le pasuk de Tehilim, Tirtov Zot, le Dor Aharon, écrit ça pour la dernière génération. Ve'am Nivra, et pour le peuple créé, Yaluka. Ils loueront Hachem. Alors là, le Midrash demande, Vechi Adaïn Uma Atida Li Barot, est-ce qu'il y a encore un peuple qui va naître, qui est à naître, pour dire Ve'am Nivra? Écris ça pour la dernière génération et le peuple qui sera créé. Ou qui, de quoi on parle là? Amar Yossi Rab Shimon, Ze Doro Shel Mordechai, Shel Nivra Bria Chadasha. La génération de Mordechai, elle était créée comme étant une nouvelle création. Et c'est ça, ils ont accédé au niveau Charout des Luchot. C'est, on a reconstitué le lien entre l'écriture et le parchemin, entre l'écriture et le klaf, entre le corps et la neshama. Ça, à l'échelle du clan Israël, on n'est pas redevenu immortel. Mais le clan Israël a retrouvé son immortalité. Et c'est aussi dans cette veine-là, si vous voulez, qu'on peut entendre le Nes, le miracle de Asher Ishletoua Yehudim Hema Besonehem, ce retournement que ce sont les Bnei Israël qui ont pris le pouvoir sur leurs ennemis. Ça aussi c'est Charout, Chérout. Parce que les autres explications de Chérout, on a dit Chérout Malacha Mavet, mais c'est aussi Chérout Mishlita Taumot Ve'amal Chuyot. Les Bnei Israël au Sinaï, au monde des Luchot, ils se sont aussi libérés du pouvoir des autres peuples, des autres royaumes sur lui. Comme dit le Midrash. La Megillah, elle est appelée Divrei Shalom Ve'emet, parole de shalom, de paix, de perfection et de vérité. Rashi dans Souka, Masechet Souka, il parle du Emet. Là-bas, la Gemara dit sur les Hadassim, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué Anaf Etz Avot, une branche de Etz, d'un arbre, Avot. Qu'est-ce que c'est Avot? Avot, c'est vous savez, la forme des les feuilles sur le les Hadassim, elles sont comme en spirale, quoi, autour de... Il y a trois, et puis elles doivent couvrir complètement, donc tout est couvert, en quelque sorte. Alors l'Agmara, elle demande... L'Agmara, elle ne sait pas ce que c'est. Elle cherche qu'est-ce que c'est un affet de sa vote. Elle demande « Vema à Irdof ». Et Rava dit « Non ». Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être ça? Parce que c'est marqué « Ahemet ve shalom ahevu ». Et ces plantes-là, c'est Eno, lo emet, velo shalom. Pourquoi? Parce que du hirdouf, on peut tirer un poison. Une plante dont on tire un poison, ça ne peut pas être ni elef, ni emet, ni shalom. Pourquoi? Parce que c'est un kli pour le malach amavet, en fait. C'est un ustensile, un instrument du malach amavet. Et c'est pour ça que la Megillah s'appelle Divrei Shalom Ve'emet, parce qu'on a restitué dans c'est le récit de la restitution, de la réacquisition par le clan Israël, justement de ce niveau de Cherut Mimalach Hamavet. On s'est libéré de la mort, donc on s'est libéré de tous les poisons en quelque sorte. Si on veut essayer de comprendre un peu mieux de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de ce niveau atteint, ce niveau de Knesset Israël, du Klal Israël, ce niveau de Charut, de Charut al Aluchot, cette libération gravée, libérée, c'était un niveau spécifique des Luchot Arishonot. C'est parce que dans les Luchot Arishonot, tout était Maase Elohim. Dans les premières Luchot, le support et le Ktav, le support et l'écriture étaient d'Hachem. Dans les deuxièmes Luchot, Hachem a ordonné à Moshe Rabbeinu, Sol Lecha, de se tailler deux pierres, et Hachem dit, j'écrirai moi, mais toi tu amènes le support. Dans les deuxièmes luchot, donc comme on a dit, c'est les luchot elles-mêmes étaient Maaseh Moshe. Sur les premières luchot, effectivement, va luchot Maaseh Elohim hema, va mirtav mirtav Elohim, ou charut al luchot. Rashi dit, ou bichvodo asan, v'yachol Hashem lui-même a tout fait. Étant donné que l'octave comme le support, l'écriture comme le support, c'est Maaseh Elohim. Alors, il y avait effectivement cette dimension de, puisque ça venait de la même source, alors du coup ça ne se sépare pas. Plus séparé, c'est écrit, c'est fait par Hachem. Vous ne pouvez pas se séparer entre le support et l'écriture. Alors, ça va dans le sens de, différent de ce que je vous avais dit, que dans le deuxième Luchot, il faut dire, l'écriture était, peut-il, en surface, quoi. Elle n'était pas peut-être de part en part. Et les luchot étaient par-dessous, il y avait un support. C'est marqué psol lecha, chatavti al aluchot. Taille pour toi, les pierres, et moi j'écrirai sur ces aluchot. Et du coup, on n'a plus ce charout complètement. C'est la gravure, elle n'est plus le même ordre. C'est plus le charout, puisqu'on est d'une certaine manière redeux. On est mortel au deuxième luchot. On n'a pas récupéré. Hachem nous a pardonné, il nous a redonné des luchot, mais on n'a pas récupéré la situation dans sa totalité. C'est une écriture avec possibilité de séparer l'octave du support des luchot. On peut séparer la neshama du corps ici. Mais à Pourim, il y a un renouvellement. On retrouve le charout à la luchot à l'envers, disons. C'est-à-dire les luchot qui sont en fait Maasé et des Adam, Ritchou, Mitzad Atzmam et Amirtav, Val Yadam Naasé Amirtav, Mirtav Elokim. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les Luchot, Chazal le disent dans. Lorsqu'il parle de la Takana de Yemé à Pourim, il dit Asu Beddin Shelmata. C'est le Beddin Shelmata, le Beddin d'Amba, le Beddin des hommes, qui a décidé de Pourim. Veiskim ou Beddin Shelmala al Yadam. Et le Beddin d'en haut a accepté ce qui avait été décidé par le Beddin d'Amba. C'est pour ça qu'on dit Kimu vekiblu ayudim. Kimu, on a accompli, on a accepté, on a donné la durée, le Mala, dans le Beddin d'en haut. Mache kiblu le Mata, ce que les Juifs avaient accepté en bas. En fait, on a un processus qui vient d'en bas et pas qui vient d'en haut. Dans les premières louchotes, tout venait d'en haut. Dans les deuxièmes, on a l'impression que c'est un peu mixte. Et à Pourim, ça vient tout d'en bas. Et tout Pourim, c'est une invention des hommes. Là-dessus, le Maharal explique. Mais la Medlecha, qui a mitzvah azot shel kriyat Megillah, que la lecture de la Megillah, Nershav ki ilu Hashem itbarach tziva aleha. On va considérer que c'est comme si Hashem avait ordonné de lire la Megillah. Puisqu'ils ont été maskim, ils ont été d'accord avec cette mitzvah que les Bnei eux-mêmes se sont inventés. Alors on doit considérer que c'est comme si Hashem en avait donné l'ordre. Donc, c'est pas comme les autres mitzvot de Rabbanan. Les autres mitzvot de Rabbanan, Chanukka ou Tilat Yadayim, ou comme ça, hein, c'est le Bedin qui décide, mais la mitzvah est toujours. Mais c'est pas comme les autres mitzvot. C'est sûr que c'est un chizouk extrêmement puissant. Lorsque la mitzvah, elle est milmata ou milmala. C'est une mitzvah qui vient d'en bas et d'en haut. Les hommes ont décidé et Akadosh Baruch Hu a confirmé. C'est-à-dire, la mitzvah de lire la Megillah. Et toute la takana, toute l'instauration des Yemé à Pourim, de ces jours de Pourim, il y a là un chidouche qui n'a aucun précédent. Évidemment, il n'y a pas rien non plus après, mais en dougmato, ni dans les mitzvot de Oraita, ni dans les mitzvot de Rabbanan. Les mitzvot de Oraita, elles sont entièrement de haut en bas. Les Derabanan, elles sont entièrement de bas, d'en bas, en fait. Et celle-là, elle est à la fois d'en bas et confirmée par en haut. Ça, c'est la spécificité de Pourim. Bien que elle soit fondée par une décision du Bédine d'en bas, elle est néanmoins considérée comme une mitzvah du Bédine d'en haut. On sait bien que la mitzvah de Mikra Megillah, elle a un din de Raïta, c'est-à-dire que d'ivrei Kabbalah, que d'ivrei Torah. Et il y a des acharonim qui considèrent que Purim c'est de Raïta Mamash. C'est Mamash comme de la, comme les mitzvot de la Torah. Par exemple, il y a une halakha que quand on a un safek, safek de Rabbanan, on va le kula. Et eux ils disent que safek sur la mitzvah de Purim, on va le chumra. Comme si c'était un de Raïta. Comme si c'était une mitzvah donnée par la, dans la Torah. Le Tour Even, il dit ça comme ça. Shabbos Aryeh, il dit ça comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les divrei Torah qui concernent le Nes de Purim, donc tous, la Knesset Israël n'a pas simplement renouvelé le Luchot en quelque sorte, renouvelé le support, mais également le Ktav, l'écriture aussi. Et ce Ktav, cette écriture, elle est devenue Ktav Elohim, comme c'est une écriture d'Hachem. Et donc il y a la réalité ici, il y a une réalité qui s'appelle Metsi, qui est une Metsiut, donc un Mirtav Elohim, qui vient donc de l'île, ça vient des Luchot, c'est Yaktan les Luchot qui a ça. C'est-à-dire que c'est le Ktav, il est produit par le. Il est le produit du Klaf. Les Luchot, en question, elles sont la source de l'écriture. C'est ça, Charut à la Luchot, le Charut à la Luchot de Maaseh Purim. Ça veut dire, les Luchot elles-mêmes sont la source de l'écriture, et c'est pas que l'écriture est venue d'en haut, en quelque sorte. Et donc c'est ça l'idée d'une regravure, en quelque sorte. C'est le support lui-même qui produit l'écriture. Correspondance, enfin, cette description-là, elle correspond à la tshuva du Klal Israël qui a été générée en quelque sorte par Haman. Quand Haman a pris ses décrets, les Bnei Israël ont fait tshuva. Alors, elle a une certaine forme, cette tshuva. Chazal disent Gdola Sarat Tabaat Yoter Mimemchet Neviim Veshiva Neviot Shekulam Lo Irzirum Lemutav Veilu Sarat Tabaat Irziratan Lemutav. Chazal disent, quand Achashverosh a passé son sceau, Sarat Tabaat, on a enlevé la bague qui était la bague avec laquelle Achashverosh scellait les documents. Il l'a donné à, comme vous savez, il l'a donné à Haman. Les Chazal disent, ce passage-là, de la tabat, du sceau d'Aman, d'Achashverosh à Haman, ça a fait bien plus que toutes les prophéties des 48 prophètes et 7 prophétesses, qui eux n'ont pas réussi à faire bouger les Bnei Israël. Et ça a fait bouger les Bnei Israël. C'est-à-dire, ça n'était pas une tochacha. On n'a pas fait au Bnei Israël des remontrances du ciel par l'entremise des prophètes, comme on l'a fait par les prophètes, etc. On les a inciter à faire tchouva, etc. Ça s'est fait en quelque sorte tout seul. Quand ils ont entendu ce Asarat HaTabat, miné ou bé, ça s'est fait. Et c'est la racine de ce niveau-là du Knal Israël, de ce... C'est ça le fondement qui a permis le sauvetage. Le fait qu'on a réussi à sortir de la Gzera d'Aman. C'est-à-dire, il y avait là quelque chose qui était du même ordre que les premières Luchot. Charut al Luchot, charut mi malach hamavet. Israël veoraita chad. Israël et la Torah, c'était une seule et même chose. Qu'est-ce qui apparaît au niveau des Luchot? C'est le niveau du clan Israël, en général, en tant que quantité. Et ce niveau de charut al Luchot, de la mitzvah et des takanot de Purim, a dévoilé qu'il y avait dans le clan Israël ce niveau charut. Le niveau qu'il y avait au moment des premières luchot, il se dévoile grâce à la gzera d'Aman, en fait, si on parlait comme ça, que ce niveau-là existe dans le clan Israël. Le clan Israël l'a fait exister en tout cas. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, ils ont refabriqué le lien quasiment qu'il était impossible de rompre entre le gouf et la neshama. C'est-à-dire par le biais du charut al luchot, le chakek. Et du coup, on pourrait, grâce à ça, comprendre un petit peu autrement le fait que la Megillah est appelée Divrei Shalom, dont on a parlé plus haut. Le Shalom dont on parle ici, il faut l'entendre par rapport au nouveau lien qui existe entre le corps et la Neshama de Knesset Israël. De ce fameux Am Nivra, ce peuple qui a été nouvellement créé et qui doit dire la louange d'Hachem. C'est-à-dire, dont on l'a vu, le Midrash dit que c'est Doro Shel Mordechai, Shel Nivra Abriya Chadasha. Cette génération de Mordechai qui est une créature toute nouvelle. C'est-à-dire, il y a là, comme on a vu, On a associé le haut et le bas, ribour entre Mala et Mata, ce qui reflète le ribour, le lien entre le gouf et la neshama. Comme Chazal le disent, c'est marqué Ikra el Hashamaim. Me'al ve'la haaretz le din. Bon, c'est-à-dire, Ikra el Hashamaim me'al zu neshama, ve'la haaretz le din amo ze aguf. Rashi explique. Hakadosh Baruch Hu appellera la neshama. Il va, à ce moment-là, et il va lui dire à cette neshama: toi, tu viens du ciel et je t'ordonne d'entrer dans le corps de l'homme. Et après, il va appeler le corps qui lui vient de la terre. Et c'est comme ça que Hachem va juger l'homme. Il va mettre ensemble, au moment il va reconstituer le couple gouf neshama, parce que chacun dit sinon moi j'y suis pour rien quoi, on ne peut pas juger l'homme. Et l'aveugle et le paralytique, comme vous connaissez. Il y a un enseignement qui a été qui est écrit dans une lettre de Rav de Kelm à Rabbi Yehuda, à Rabbi Rucham, le Majguer de Mir, et il lui dit Lomatsa, Kadosh Baruch Hu, Kli Marzik Bracha Ela Shalom. Chazal disent qu'Hachem n'a pas trouvé de contenant capable de contenir la bracha, si ce n'est le shalom. Parce que si on peut donner toutes les brachot, mais s'il n'y a pas de shalom, on n'a rien de toutes ces brachot. Le moyen de contenir les brachot, de faire en sorte qu'on peut vraiment les recevoir et les garder, c'est le shalom. Et il lui explique, il lui dit, Adam murkav miguf venefesh. L'homme est composé d'un corps et d'une âme, et d'un nefesh, qui sont en fait deux entités contradictoires. Le corps, il est totalement matériel, grossier, on peut dire obscur. Et au contraire, le nefesh de la neshama, elle est à l'autre extrême de la pureté. C'est quelque chose de quasiment immatériel, archi-pur. Puisqu'elle est chelek elokam imal, c'est une partie de la divinité. Mais comment est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on peut en dire, disons? Tout le travail de l'homme, c'est l'ashlim et shnei achalakim ma'alim shielchou b'shalom v'shalva kol hayamim. Le travail de l'homme, c'est de permettre à ces deux composantes d'aller ensemble, le shalom, le shalva, c'est-à-dire en paix, en sérénité, jusqu'à ce que il y ait une unification complète. Shi'ule echad mamash. Comme quelqu'un qui, comme c'est le cas de ceux qui sont montés directement dans le ciel, Elisha, Elia Wanavi ou alors, David HaMelech a dit dans cet Élim, il a dit Samalcha Nafshi, Kamalcha Besari. Mon âme a soif de toi, mais mon corps également. Donc, David HaMelech, il avait réussi à faire en sorte que pas seulement que son âme désire. Hachem, c'est compréhensible. Mais que le corps, lui aussi, le veuille. Ça, c'est la nouveauté. Ça, c'est tout le travail de l'homme. De faire ce shalom entre les deux parties qui, a priori, ne sont pas compatibles. Et la Megillah, qui décrit le Nes de Purim, elle s'appelle Divrei Shalom, justement, parce qu'on a réussi à reformer l'unité entre le gouf et le nefesh. Alors, il y a une promesse dans la Megillah. Shvimi Apurim lo yavru mitoch hayudim, vezichram lo yasuf mizaram. Que les jours de Purim ne disparaîtront jamais parmi les Israël. Et leurs souvenirs non plus. Et leur âme. Dans Ilhot Megillah, il dit Tenire de Mefaresh de Ainu ha de Ime Apurim loit Batlu. Là, tu l'avons. Il dit visiblement, il explique que les jours de Purim, comme on l'a dit, ne disparaîtront pas. Là, tu l'avons. La Megillah elle-même, de tous les textes des prophètes, etc., il n'y a que ça qui survivra. Cette promesse, donc, la Torah ne disparaîtra pas dans le clan d'Israël. Celle-là, on la connaît, cette promesse, que ce soit la Torah elle-même. Eh bien, il y a la même chose sur le Nes de Pourim, sur la Megillah et le Nes de Pourim. Ce niveau-là, qui met la Megillah quasiment au même niveau que la Torah. Zichram lo yasuf mizaram, il n'y aura pas d'oubli. C'est aussi tout ça, c'est aussi le même processus du Charout à la Luchot. Toujours la même idée à l'instant. Charout à la Luchot. Toujours la même idée. Charout, ça veut dire. Ça peut pas, si c'est gravé, ça ne peut pas s'effacer. Ça ne peut pas s'oublier, ça ne peut pas s'effacer, rien. Toujours cette même idée. Vous savez que le Harizal, en fait, c'est déjà écrit dans le Zohar aussi, dans le Tikkunim aussi, que, en fait, Yom Kippourim, il est seulement que Pourim. C'est-à-dire que la référence, c'est Pourim. Même pour Yom Kippour. Yom Kippourim, c'est Yom que Pourim. Il est seulement comparé à Pourim. Donc, d'une certaine manière, ça veut dire que la Geoula, la libération à Pourim, elle est supérieure au pardon de la faute du Hegel qu'on a obtenu d'Hachem à Yom Kippour. Et on peut dire, ça s'entend dans la mesure où la Mechila, le pardon qu'Hachem a donné au clan d'Israël, ça ne nous a pas restitué le Charout Mimalach HaMavet. Alors que l'histoire de Pourim, d'une certaine manière, nous l'a restitué. De façon générale, le tzibour. On peut comprendre avec ça ce que le Gaon dit. Il ramène Yom HaKippourim, il dit En bo achila ushtia. Le Gaon dit que quand on dit de Yom Kippour que En bo achila ushtia, c'est parce qu'il faut le mettre en rapport avec Pourim, où à Pourim il y a une mitzvah de achila ushtia. Les Chazal disent En Yom Tov l'Israël comparable à Yom Kippour. Et qu'en réalité, on aurait dû faire à Yom Kippour Mishteh v'Simcha. Mais on ne pouvait pas en son temps parce que c'était pas. On y arrivait. Mais à Pourim, on rattrape. À Pourim, on a rattrapé la dimension de Super Yom Tov de Yom Kippour. Vechulan, Kabbalat HaTorah. Tous les deux, Kippourim, Yom Kippour et. On a reçu les deuxièmes luchot, on a accepté donc Kabbalat HaTorah, et Pourim aussi. Alors, le Be'er Yitzhak, commentaire sur le Gaon, là-bas, il dit que Pourim, justement, est mashlim, il complète ce qui manque à Kippourim, c'est-à-dire Simcha et Mishteh. Étant donné qu'il y avait à Yom Kippour aussi Kabbalat HaTorah, des deuxièmes Luchot, mais que puisque c'était Yom Tov, on n'a pas pu se réjouir comme il le fallait avec Achila et Shtia, alors on est Mashlim au complète à Pourim. Il est aussi un jour de Kabbalat HaTorah, puisque Adar Kibloa, puisqu'on a réaccepté la Torah à Pourim. En quoi est-ce Pourim complète? C'est que la Simcha de Pourim, qui est liée au fait que on a retrouvé ici ce niveau de Charout al Aluchot, mais qui a été produit par les Bnei Israël. C'est-à-dire qu'au lieu, le Charout al Aluchot était fait par, dans les premières Luchot par Hachem, ça a été fait maintenant par les hommes. C'est ça le Hadar Kibloua. Donc on comprend que c'est ça la Hashlama de la Simchat Matan Luchot de Yom Kippur. La réjouissance pour le fait d'avoir reçu à Kippour les Luchot, eh bien, on la vit à Purim. Les Chazal ont décidé, ils ont dit, ils ont fixé la Simcha à Purim, la sototam yeme mishtev et Simcha. On a décidé qu'on allait faire de Purim Yemé des jours de Mishté et de Simcha, donc de festin et de joie. C'est le niveau de Knesset Israël durant le miracle. Et alors évidemment, la façon de fixer les jours de Purim pour toutes les générations à la même forme, ça reflète de nouveau la takana de la mitzvah de Purim. C'est-à-dire, que shem shema'alech takanat yemea Purim, ou bofan sha'aluchot em mekor amichtav elokim. De la même manière que on a les jours de Purim sont liés au fait que les luchot sont, donc les tables elles-mêmes, sont la source de l'écriture divine, le kibou le mala mashe kibou le mata. De la même manière, le lien entre le bet din shel dor meora anes, c'est le bet din de l'époque, et la Knesset Israël dans toutes les générations, c'est-à-dire la simchat pourim que nous accomplissons, ce sont les Chachamim qui l'ont fixé, et la source, disons, c'est-à-dire la façon dont ça se fait, c'est-à-dire que c'est le klav qui va donner, comme on a dit déjà 20 fois, le klav qui va fabriquer le ktav, Knesset Israël, pour toute cette génération, est la source de la simcha permanente, et Israël fixe par eux-mêmes les Yemé, Mishté et Simcha de Purim. Et chaque génération, on donne la possibilité, on confie à Israël, d'être la source de la Simcha. La sot otam Yemé, Mishté et Simcha, liot osim et Yemé Purim b'chol shana b'shana. Ça veut dire, les Bnei Israël, chaque année, en fait, c'est eux qui sont réputés. On ne fait pas Purim parce que ça a été décidé une fois pour toutes. D'accord, la takana de Purim, c'est la asot otam yeme mishte v'simcha. C'est-à-dire que c'est à nous à transformer les jours de Purim en yeme mishte v'simcha. C'est pas que ils le sont par eux-mêmes, en quelque sorte, et nous, on n'a qu'à se mettre au diapason de ce que sont ces jours. C'est à nous à fabriquer ces jours, liot osim. On doit faire les choses par nous-mêmes. Et c'est ça la avodat hayom de Simchat Purim. Liyot kol adam Israël mekor u ma'ayan shel simcha. Chaque juif doit être une source de simcha. Que tout le monde puisse profiter de chacun comme source de simcha. Il faut que je sois la source de simcha pour tout le monde. Et que chacun d'entre nous soit la source de simcha pour tout le monde. Que quand les autres vous voient, ça génère de la simcha. Ce que le Rambam dit quand il dit que la mitzvah de Matanot le'Evyonim, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, le Rambam dit « Mutav le'adam le'arbot be'matanot le'Evyonim, mi le'arbot be'seudato bishloach manot le'reyav. » Il dit « Il vaut mieux distribuer plus d'argent aux pauvres plutôt que de faire une grande seouda et d'envoyer des grandes manot à ses amis, des grandes mishloach manot, She'en shem simcha gdola u'mefuara ela l'sameach levaniim v'itomim v'almanot v'gerim. Il n'y a pas de simcha plus grande et plus splendide, en fait, que de réjouir le cœur des pauvres, des orphelins, des veuves et des étrangers. She'am sameach leva u'mlalim ha'elu, celui qui réjouit ces pauvres gens, domé la shchina. Il est comme la présence divine. C'est marqué la chayot ruach shfalim, la chayot lef nitkaim. Faire revivre les gens qui sont abaissés, faire vivre ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire l'essence de la simchat purim. La grandeur, la splendeur, c'est d'être source de simcha. C'est pas de se réjouir. C'est d'être source de simcha pour l'autre. Comme il dit, Shemimenu yushu avim simcha. Que les autres puissent de la simcha chez chacun d'entre nous. Et c'est en ça qu'on est domé chez la Shrina. Ça, c'est la spécificité et la grandeur de la fête de Purim, c'est que chacun doit se transformer en source de simcha, pas se réjouir. Alors, il faut se réjouir aussi, bien sûr. Mais il faut se réjouir de telle sorte que les autres soient réjouis de vous voir réjouis. Le summum de la simcha, dit Rambam, c'est de réjouir ceux qui ont besoin d'être réjouis. Ceux qu'il faut mettre en joie. C'est plus important que de se mettre soi-même en joie et de mettre en joie ses petits copains. En joie les copains, les manotanot, les mishloach manot, le réhav, le réhou, c'est très bien, il faut le faire, c'est une mitzvah. Mais le Rambam dit l'échelle des valeurs, c'est maintenant le bionim au niveau. Pourquoi? Parce que ça réjouit ceux qui ont besoin d'être réjouis.
C'est une dimension de la sotota, Michel.
Pardon?
C'est une dimension de la sotota, tout ça vous tirez de ce que c'est.
Oui.
Vous direz que si j'ai bien compris, il y a Purim, parce que Purim, il y a cet élan qui vient d'en bas vers le haut.
C'est ça.
Mais en parlant dans les autres fêtes, je ne sais pas comment, par exemple, Sukkot, il y a aussi une mitzvah de Simcha.
Oui, mais c'est une Simcha qui a été imposée par en haut. Là-bas, l'accent est pas. Bien sûr qu'il faut le faire, mais l'accent est pas mis là-dessus. Quoi. C'est un autre type de simcha. C'est un autre type de moed. Tu sais, il y a la simcha. Il faut se réjouir. Et il y a une halakha de pas laisser tomber à Lévi, à Ger, à Yatom, à Almana, etc. Et que le Rambam dit que si dans un repas de Yom Tov, il n'y a pas de gens qui ont besoin. Qu'on les invite, quelque part, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais encore une fois, c'est la simcha qui descend, qui te. Voilà, tu dois acquérir. Alors, il faut, pour ta réjouissance, pour qu'elle soit complète, il faut aussi qu'il y ait d'autres gens qui ont besoin d'être réjouis. Tandis que, ici, le travail, c'est. Toute la simcha, c'est ça. C'est l'essentiel, c'est un autre type de simcha. La sototam. On ne te demande pas de faire des jours de Sukkot, des jours de Simcha, ils le sont, c'est Zman Simchatenu. Purim, c'est pas Zman Simchatenu, où ça nous est donné. C'est Zman Lassot Simcha. C'est un temps où nous devons nous-mêmes fabriquer de la Simcha.
Grâce aux autres, en fait, puisque les autres nous donneraient
L'accent, il n'est pas sur le fait que les autres me donnent à moi.
Non, mais que les autres nous donnent la possibilité, en fait, de les réjouir.
Oui.
Mais en fait, effectivement, en fait, je me suis demandé sur l'octave, est-ce que historiquement, pour attacher la création, le changement d'octave Ivry et d'octave Achoury au moment de
par rapport Ezra.
Oui, c'est par rapport à Ezra, c'est pas par rapport à.
C'est Ezra, c'est quand il retourne. C'est.
Oui, c'est postérieur. Donc c'est postérieur en fait.
Oui.
Et.
Peut-être que c'est dans le corps de Jala aussi.
Très bien, parce que je crois qu'il y a une réalisation du monde, il y a la main qui veut écrire en testant de peut-être ça. Donc ça aussi c'était avant.
Oui.
Maintenant, en fait, sur les. On dit que l'octave et l'octave ont été donnés définis le matin de Torah. Enfin, avant la création du monde. Je me demande si justement, c'est-à-dire que la Tshuva aussi a été aussi donnée avant, en même temps. Donc de ce point de vue-là, en fait, il y avait un lien aussi à faire, entre le fait que si on touche en fait à cette matière qui vient avant la création du monde, de toute façon, en fait, on remet en énergie en fait des choses qui sont latentes. Mmh.
Ouais. Je sais pas, il faut l'élaborer ça.
La Bila, elle monte jusqu'au degré de.
Comme la Torah.
De la Torah.
On fait des drachot sur la Megillah, dans la Gemara, exactement comme sur les Psukim.
Oui.
Ce qu'on ne fait pas sur les autres.
La question, il n'y a pas de nom Hachem.
Il n'y a pas de
nom Hachem.
Non. C'est nous qui le mettons. Ça, c'est tout le travail de la Megillah, c'est. On est dans l'Esther Panim, ça dépend, c'est nous qui devons le voir. Il s'impose pas du tout. C'est apprendre, lire la Megillah, c'est apprendre à voir. C'est toujours que d'une certaine manière, nous ne lisons pas la Megillah telle qu'elle est écrite.
Comment est-ce qu'on peut faire du vrai shalom sans mentionner?
Ouais. Ce que je disais, c'est que quand vous lisez la Megillah,
oui.
Enfin, comme nous tous, quand nous lisons la Megillah, nous ne lisons pas ce qui est écrit. Parce qu'on interprète tout de suite. Nous, on voit, donc, je lis la Megillah et je vois Hachem qui tire les ficelles ici, tire les ficelles là et tout. C'est pas marqué dans le texte. Et personne ne lit. Si on la lisait laïquement, bon, c'est un texte qui est à. Je ne vais pas dire athée parce que c'est pas de chez nous, mais Hachem, il n'y a pas de nom divin, vous avez raison, mais il est là en filigrane, il est là très souvent quand, je ne sais pas toujours le vrai, mais souvent quand c'est marqué Amelech, c'est Hachem. Amelech Rachverosh, c'est Rachverosh. Amelech, c'est très souvent Hachem. Pas toujours, il y a des fois c'est Amelech, mais des fois c'est le moment où je marque Amelech et on parle de Rachverosh, mais. Souvent, c'est Hachem. Bon, mais ça, c'est un petit truc comme ça, mais il est derrière. Il n'a pas de Gdoucha. C'est quand vous écrivez la Megillah, vous écrivez Amelech, le Amelech, et vous ne devez pas aller vous tremper au Mikvé pour pouvoir écrire Amelech. Ça se saurait. Je veux dire.
On dit que
l'Amelech,
c'est un moment où ils sont revenus au niveau des premières lopotes, d'une certaine façon. Plus qu'à quelque chose, au moment de courir. Mais au niveau du premier repas, c'est comme vous disiez, il n'y avait pas du tout de. Malheur de ma tête, n'aurait pas du tout dû avoir d'impact, il n'allait pas mourir, il
n'allait
pas me traiter avec elle. Or, à un moment de courir, on est resté mortel.
Oui, c'est ça. C'est qu'on avait perdu, on avait perdu aussi l'immortalité du klal. Tzibur et Nom Metim, ça vient de. On l'a récupéré à Pourim.
Alors, dans la période entre le deuxième lochot et jusqu'à la Megillah,
d'une certaine manière, je ne sais pas comment on se débrouille, mais comment, d'après cette explication-là, le tzibour, il était capable d'être maître, je ne sais pas.
Il était en plus grand risque dans cette période intermédiaire.
En tzibour, oui. Il n'avait pas cette assurance, en quelque sorte, d'immortalité. Nous, on a reçu une nouvelle vie, quoi, mais c'est le clan Israël qui a reçu une nouvelle vie. Mais c'est une nouvelle vie, la nouvelle vie qu'on a reçue, c'est une vie d'esclave. Comme d'Akate Avdei Achashverosh Hanan. On est encore serviteur d'Achashverosh, esclave d'Achashverosh, sujet d'Achashverosh. C'est ça, Chazal disent quand même qu'on est serviteur d'Achashverosh. La reine, c'est Esther, le grand vizir, c'est Mordechai. Et néanmoins, on est encore appelé Akate Avdei Achashverosh Hanan. Et on peut pas dire, à cause de ça, on peut pas dire qu'on est Avdei Hashem.
Vous me donnez le courage de poser la main dernière.
Oh là, question. C'est une erreur alors.
Non, pour aujourd'hui. Comment
ça
alors
aussi, c'est...
Puisque l'Ashkana sur Tzibour a été levé, comment est-ce que ça a pu se reproduire avec les marchands?
Mais il n'a pas réussi. Il avait ce projet, mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi.
Oui, parce
qu'il
attaque
de loin aussi. Ben oui, il attaque, mais le clan Israël n'est pas en danger. Les gens sont en danger.
Si
la notion de clan Israël n'est pas en danger. Voilà, ça arrête là.
Il y a aussi à dire, que, d'une manière beaucoup plus matérielle, que dans le royaume d'Achashverosh, tous les juifs étaient. Il n'y en a pas en dehors de ces 39 000
livres. Oui, 127. 127.